journal, Olivier Bénis.
Bonjour à toutes et à tous. Premier couvre-feu hier pour 38 nouveaux départements. La mesure s'applique désormais aux deux tiers de la population française. Pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, nécessaire sans doute, suffisant, pas sûr, c'est ce que dit notamment le scientifique Axel Kahn. Vous l'entendrez. Autre mesure, l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement veut le prolonger jusqu'en février pour permettre aux préfets de prendre de nouvelles mesures restrictives en cas de besoin. Les parlementaires examinent cette prorogation à partir d'aujourd'hui, mais beaucoup s'interrogent sur ses conséquences. On en parlera avec notre invité, le député Raphaël Schellenberger. Israël se réconcilie avec le Soudan. Un accord devait être prochainement signé entre les deux pays. Pour l'État hébreu, c'est une nouvelle étape après une normalisation des relations avec deux autres pays de la région. Et puis nous irons prendre des nouvelles de Zinedine Zidane en mauvaise posture à la tête du Real Madrid après deux contre-performances. Et on vous emmène au cinéma avec vos enfants avec Mon Premier Festival. À 13h20, ce sera Secret d'Info avec vous, Jacques Monin. Dans quelle affaire nous plongez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, vous allez vivre de l'intérieur ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel à l'automne 95. Les comptes de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur ont été validés alors qu'ils étaient faux. Mais qui a dit quoi précisément ? Réponse dans 20 minutes.
A tout à l'heure, Jacques, et à vous tous, bienvenue dans le journal de 13h.
France Inter.
Comme Marcel Proust, vous vous êtes sûrement couché de bonne heure hier soir. En tout cas, vous n'avez pas pu rester dehors aussi longtemps que vous l'auriez voulu. Si vous habitez dans l'un des 54 départements désormais concernés par le couvre-feu de 21h à 6h du matin. Couvre-feu qui rappelle sacrément l'ambiance du confinement en début d'année, mais en version nocturne avec ses attestations dérogatoires et ses soirées coincées à la maison. Le gouvernement assure que c'est la meilleure solution pour éviter d'arrêter à nouveau l'économie, même si certains secteurs en subissent les conséquences de plein fouet. Une position que partage Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer. Pour lui, ce couvre-feu, avec tout ce qu'il implique, était inévitable pour ralentir l'épidémie de Covid-19.
Les opportunités qui existaient de l'enrayer à ses débuts n'ont peut-être pas été jouées suffisamment bien, on y reviendra. Mais de toute façon, au stade où on en est, les classiques mesures que sont le dépistage des cas, l'identification des contacts, l'isolement, etc., etc., est totalement dépassé et cela ne suffira pas. Et par conséquent, maintenant, on est au stade où pour essayer d'enrayer l'épidémie, il faut vraiment diminuer les contacts physiques. C'est pratiquement la seule stratégie qui est à notre disposition à ce stade.
Axel Kahn, invité de nos confrères de France Info ce matin. Ce couvre-feu, comme toutes les mesures de restriction, on l'accepte notamment pour protéger les plus faibles, ceux à qui l'exposition au virus fait prendre le plus de risques. Et malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Illustration à Jarnac en Charente, où l'un des deux EHPAD de la commune compte 66 cas positifs et 2 décès. 50 des 81 résidents ont attrapé la Covid-19, tout comme 16 soignants. Le virus s'est répandu comme une traînée de poudre en à peine une semaine, et c'est toute une commune qui s'est brutalement heurtée à cette nouvelle réalité, Lisa Guyenne.
Jarnac, 4500 habitants seulement. Ici, la première vague du Covid, on l'a surtout vécue à la télé, de loin.
Nous, on a passé le confinement ici. Il ne se passait absolument rien. Les gens étaient masqués, mais sans plus. Et il y avait zéro cas. Enfin, il devait y avoir une hospitalisation. Donc, en effet, c'était rien du tout.
Alors, face à cette contamination d'ampleur, 66 cas désormais dans l'un des deux EHPAD de la ville, les habitants ont du mal à réaliser.
On ne croyait pas qu'il y avait tout ça, quoi. Là, tout le monde est choqué, tout le monde en parle le matin. Ça parle que de ça. Là, au bar, ça parle que de ça. J'ai des amies qui bossent à l'EHPAD où il y a eu le Covid et elles ont la boule au ventre, elles sont stressées, ils disent que c'est la guerre.
Des soignants pris de court et des pouvoirs publics aussi. Le maire, Philippe Jess, élu en juin dernier, ne s'attendait pas à connaître une telle situation.
C'est décevant parce qu'on avait la sensation d'avoir fait notre travail, ce qu'il fallait. Et pour autant, ça s'est déclaré là où on s'y attendait le moins. Et on n'a pas forcément d'armes contre le Covid, là, à ce niveau-là. On ne pouvait pas faire autrement, quoi.
Et il sera très dur, voire impossible, de déterminer qui était le patient zéro selon la direction de l'EHPAD, qui précise la priorité, c'est avant tout de contenir l'épidémie à l'intérieur de la résidence.
Parmi les mesures pour tenter d'endiguer cette deuxième vague, il y a l'état d'urgence sanitaire. Il a été rétabli par décret la semaine dernière, après avoir été déjà utilisé en mars et en juillet. C'est un cadre qui permet au préfet de pouvoir appliquer des mesures restrictives au cas par cas, comme le confinement ou le fameux couvre-feu. Cet état d'urgence sanitaire passe en ce moment devant l'Assemblée nationale pour être prorogé. On en parle tout de suite avec notre invité Raphaël Schellenberger, député LR du Haut-Rhin. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors ce matin, devant les députés, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a défendu cette prolongation jusqu'au 16 février de l'état d'urgence sanitaire. Une décision de responsabilité, selon lui. Est-ce que ça veut dire que ceux qui votent ou contre sont irresponsables ?
Non, absolument pas. On a là le ministre qui essaye d'organiser la confusion entre le débat d'un côté sur les mesures qui sont prises, la question du couvre-feu, ou d'autres annonces qu'il refuse pour autant de nous donner. Hein. Je veux dire, on comprend bien qu'il risque d'y avoir des annonces plus restrictives, mais personne ne veut en parler. C'est un peu un secret de polichinelle. Entre ça d'un côté et d'autre part, le cadre juridique. Le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire, c'est une forme de plein pouvoir qui est donné par le Parlement au ministre de la Santé et au Premier ministre. Et on ne peut pas confondre les deux. On ne peut pas dire que ceux qui ne sont pas d'accord sur les pleins pouvoirs ne sont pas d'accord sur les mesures. Je crois qu'une démocratie apaisée, elle doit pouvoir faire la part des choses entre ces deux éléments.
Mais est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité d'agir aussi vite que possible, en fait, quitte, entre guillemets, à contourner un petit peu le fonctionnement habituel ?
Mais c'est possible. Le couvre-feu, il aurait été possible dans le cadre juridique qui n'était pas celui de l'état d'urgence sanitaire. C'est un cadre juridique que nous avons voté quasi unanimement à l'Assemblée nationale. Les Républicains l'ont bien soutenu. Mais ce que nous disons, c'est que nous voulons que le débat soit éclairé. Les gens ne peuvent pas accepter autant de mesures de privation de liberté quand il n'y a pas de l'espace pour le débat démocratique. Ça ne veut pas dire agir moins vite. Ça ne veut pas dire ne pas être réactif, ça veut dire prendre le temps de débattre au moment où il le faut. On l'a vu, le couvre-feu, cela a été possible. Il a été possible de l'élargir sans qu'il y ait eu de vote à l'Assemblée nationale auparavant. Voilà, nous on souhaite simplement que cela se poursuive et qu'on ne laisse pas une carte blanche à un gouvernement pour réagir n'importe quand sans à aucun moment consulter le Parlement.
Vous parliez de mesures plus restrictives qu'on voit arriver. Olivier Véran dit aussi la situation va s'alourdir dans les prochains jours et semaines, quoi que nous fassions. Est-ce que finalement, tous ces débats sont un peu vains et on est simplement en train de préparer un reconfinement, tout bêtement ?
Juridiquement, le texte qui est aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale, c'est exactement le même que celui qui a permis le confinement en mars. Donc, c'est bien ce qu'on dit. Dites-le-nous. Si vous voulez confiner, dites-le nous. Et alors, on débattra du cadre juridique. Le problème, c'est qu'on est en train de mettre en place le cadre juridique qui permet le confinement, mais que le gouvernement ne prononce pas le mot.
Vous pensez que ce cadre juridique peut justifier d'autres choses ? C'est quelque chose qui vous inquiète, notamment dans le fait de le prolonger pendant 4 mois ?
Alors, voilà, il y a une prolongation pendant 4 mois, alors qu'en mars, on avait fait 2 mois. Et on avait ensuite à nouveau prolongé de 2 mois. Et là, le texte qui nous est présenté, il couvre en tout 6 mois, dont 4 de façon certaine avec l'état d'urgence sanitaire. Ça nous semble déraisonnable d'un point de vue du respect de la démocratie. Les garants des libertés des Français, ce sont les parlementaires. Ce n'est pas le gouvernement. Et on ne peut pas enfermer les Français, que ce soit le soir ou en journée, sans que le Parlement s'exprime sur ces questions-là.
Rapidement, Raphaël Schellenberger, pour conclure, quelle serait selon vous la bonne méthode pour traverser cette deuxième vague ? Est-ce que le couvre-feu, par exemple, c'était une bonne idée ?
Moi, je pense que le couvre-feu est une mesure intéressante. Je crois surtout qu'il faut laisser le temps à ces décisions de faire leurs effets. On sait que quand on prend une décision, les premiers effets ne se font sentir que 2 semaines ensuite. Voilà. Si toutes les semaines on prend des décisions toutes plus dures les unes que les autres, on n'arrivera jamais à savoir si la décision précédente a pu produire des effets ou pas. Voilà, il faut réussir à garder le calme, à garder la sérénité dans la gestion de la crise. Maintenant, ça fait 6 mois qu'on est en gestion de crise. Il faut pas qu'on effraie absolument tout le temps les Français. Il faut qu'on les appelle à la responsabilité, il faut qu'on les appelle à la solidarité, mais il faut aussi qu'on sorte d'une logique de management de cette crise par la seule peur.
Merci beaucoup Raphaël Schellenberger. On rappelle que vous êtes député LR du Haut-Rhin. Covid toujours, mais à l'étranger cette fois. On l'a appris ce matin, le président polonais Andrzej Duda a été testé positif au coronavirus. Une annonce qui tombe alors que la Pologne, elle aussi, fait face à une recrudescence de la pandémie. Le communiqué officiel assure qu'au-delà de l'image que donne ce test positif, le dirigeant, lui, va bien. Israël est-il en train de réussir à apaiser ses relations, souvent plus que tumultueuses, tumultueuse avec ses voisins. C'est en tout cas l'État hébreu qui tente de normaliser ses rapports avec le Soudan. Donald Trump l'a annoncé hier soir suite à une conversation téléphonique avec les dirigeants des deux pays en présence de journalistes. Si ce nouvel accord aboutit, ce serait le troisième du genre pour Israël, après un accord avec les Émirats arabes unis, un autre avec Bahreïn. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. L'Iran dénonce par exemple ce matin un accord bidon, estimant qu'il s'agit uniquement pour le Soudan d'obtenir en échange d'être retiré de la liste noire du terrorisme. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé sa joie peu après l'annonce.
C'est une nouvelle ère, une ère de paix véritable. La paix qui s'étend à de nouveaux pays arabes. Il y en a eu trois d'entre eux ces dernières semaines. Nous agrandissons le cercle de la paix. Quelle émotion! Et pourvu que cela continue, les délégations du Soudan et d'Israël se réuniront bientôt pour discuter de la coopération dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, le commerce et d'autres domaines importants pour nos citoyens. Le ciel du Soudan est ouvert aujourd'hui pour Israël. Cela permet des vols directs et plus courts d'Israël vers l'Afrique et l'Amérique du Sud.
Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Égypte pour plusieurs semaines d'élections législatives. Des élections qui devraient a priori renforcer l'influence des partisans du président Abdel Fattah al-Sissi, notamment parce qu'une récente réforme électorale les favorise, en tout cas selon l'opposition, qui dénonce l'organisation de ce scrutin. Le premier tour doit s'achever demain, avant un second tour prévu les 7 et 8 novembre prochains. Quant aux résultats, ils ne seront connus que fin décembre.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
Renforcer l'arsenal législatif contre le séparatisme, c'est ce que veut faire le gouvernement qui entend montrer les muscles encore un peu plus visiblement après l'assassinat de Samuel Paty la semaine dernière, assassinat qui a horrifié le pays. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé deux mesures pour parachever le texte, déjà sur les rails depuis plusieurs semaines. La possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui, mais aussi ceux qui font pression sur des fonctionnaires ou des agents publics. Pour retrouver le détail des différentes mesures annoncées par le gouvernement hier soir, rendez-vous sur franceinter.fr. C'est un nom qu'on n'entend plus aussi souvent qu'à l'époque de son apogée, il n'y a pourtant pas si longtemps. Parti socialiste. Pourtant, il est encore là, et bien là, en tout cas, c'est ce qu'il veut prouver. Alors, pas de chance, la Covid a eu raison de son congrès prévu en décembre prochain. Alors, son premier secrétaire, Olivier Faure, fait avec en le proposant dès aujourd'hui aux membres de son Conseil national. Il compte y présenter sa stratégie pour la prochaine présidentielle et tenter de rassurer les militants avec un constat, mine de rien, à son rythme, le PS remonte la pente après sa chute spectaculaire de 2017, Laurence Perron.
Il a été moqué dans les médias, raillé par les siens, conspué dans les manifestations. Le Parti Socialiste, dont on a fait tous les rapports d'autopsie en 2017, ce grand cadavre à la renverse, ne se porte en réalité pas si mal. Les municipales et les dernières sénatoriales ont prouvé que le parti comptait encore dans le paysage politique. Olivier Faure, son premier secrétaire, contesté notamment par la Hollandie dans ses stratégies d'alliance. Olivier Faure, le prophète de l'effacement, comme on l'a aussi désigné, fait mentir les pronostics. Son offre de dialogue avec les partenaires de gauche a été reçue par tous, à l'exception de la France insoumise. Il faut dire aussi qu'en concédant qu'il n'y aurait pas forcément de candidat socialiste chimiquement pur en 2022, ça aide à rassembler. La stratégie que le patron du PS entend dérouler est la suivante. Un programme commun, puis un congrès de refondation en 2021. Ce sera d'ailleurs les 50 ans de celui d'Épinay qui a fondé l'actuel PS sous l'impulsion de François Mitterrand. Reste l'épineuse question de l'incarnation. Il faut trouver le ou la Mitterrand social et écologiste de 2022.
C'est désormais officiel, Éric Dupond-Moretti ne peut plus avoir d'informations ou d'influence sur aucune enquête en lien avec son ancienne activité d'avocat, notamment sur l'enquête administrative lancée contre des magistrats du parquet national financier. C'est ce que prévoit un décret paru aujourd'hui. C'est désormais le Premier ministre Jean Castex qui sera chargé à la place de son ministre de la Justice de ces dossiers où un risque de conflit d'intérêts existe. Mi-septembre, le garde des Sceaux avait fait ouvrir une enquête pour identifier d'éventuelles fautes dans une enquête du PNF qui avait conduit à éplucher les relevés téléphoniques de plusieurs avocats, dont lui-même. De son côté, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, annonce qu'elle souhaite conduire la campagne des régionales de la majorité en mars prochain. Invitée ce matin sur notre antenne, elle dit vouloir se présenter dans le Val-de-Marne. D'autres ministres envisagent d'ailleurs d'aller briguer des mandats d'élus régionaux, comme Jean-Michel Blanquer en Ile-de-France, Geneviève Darrieussecq ou Jean-Baptiste Djebari en Nouvelle-Aquitaine. Et puis un policier mis en examen aujourd'hui pour meurtre dans les Yvelines. L'homme avait tué par balle un automobiliste à Poissy dans la nuit du 17 octobre. Selon le ministère public, les premiers éléments de l'enquête ne démontrent pas qu'il était en état de légitime défense, ce qui contredit la version des faits initiale qui évoquait une course-poursuite et le fait surtout que le conducteur aurait foncé sur les policiers. Le policier de la brigade anticriminalité a été placé sous contrôle judiciaire. C'est un clip qui monte sur YouTube. Presque 150 millions de vues depuis sa publication le 15 août. Bande organisée rassemble les stars de la génération actuelle du rap marseillais. Le problème, c'est que sur les 6 minutes que dure leur morceau, on voit brièvement une voiture de police avec des acteurs jouant des fonctionnaires de police, donc à l'intérieur. Voiture sur laquelle on jette des bouteilles en verre. Une séquence dont l'existence est arrivée 2 mois après aux oreilles du syndicat de policiers Alliance, qui demande au ministre de l'Intérieur d'intenter une action judiciaire. Bref, il y a beau y avoir de la musique, on ne s'entend pas toujours entre rappeurs et policiers marseillais, Olivier Martoc.
La séquence intervient juste après l'un des moments cultes du clip, Zumba Caféo. Elle dure 4 secondes. Rudy Mana, le secrétaire du syndicat Alliance, reconnaît qu'elle est passée totalement sous les radars.
Nous, les policiers, bon, on n'est pas les premiers groupies de ces groupes-là, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas vu cette image-là. On est furieux parce que je pense que la liberté d'expression a ses limites. Ce qui est terrible également, c'est que s'il y a 50 millions de vues, c'est un clip qui a été vu dans le monde entier. Et que peuvent penser un habitant des Pays-Bas, un habitant d'Italie, qui voit qu'en France, en fait, les véhicules de police se font caillasser sans sanction dans des clips en toute impunité.
Difficile de comprendre ce que vient faire cette séquence, sortie de nulle part. Midi Chouabi est professeur dans un lycée des quartiers nord. Il connaît bien l'univers du rap.
C'est vraiment le gyrophare en fait qui pose problème. On le voit bien aussi avec des abus, des déclinaisons qui vont même jusqu'à caillasser les pompiers par exemple, etc. Donc c'est vraiment l'institution qui visait le symbole et pas spécifiquement les forces de l'ordre.
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a soumis la question à analyse juridique. Compte tenu de la notoriété des stars impliquées et du succès du clip, la question pourrait rapidement devenir un brûlot politique et sociétal. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Une page football à présent avec un classico aujourd'hui, sans Marseille celui-ci. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone dans un peu moins de 3 heures, dans un contexte très particulier pour les joueurs madrilènes. Leur club est certes sur le podium de la Liga, mais il vient d'enchaîner 2 défaites pour le moins embarrassantes à domicile. Une en championnat contre un club tout juste promu et l'autre en Ligue des Champions contre les Ukrainiens de Donetsk. D'où cette double question qui revient dans l'esprit des fans. Zinedine Zidane a-t-il perdu son mojo et surtout est-il menacé à son poste d'entraîneur? Élément de réponse avec vous, Alexandre Berthaud.
Si Zizou a la pression, il ne le montre pas. Toujours calme, serein, il a répondu en conférence de presse à la rumeur de son limogeage en cas de défaite contre Barcelone.
C'est ce qui se dit, je ne vais pas le nier. Après, qu'est-ce que ça change? Rien. Au final, je suis le même qu'à mon premier passage ici, le même que l'an passé. Je ne change rien.
Si les journalistes français évoquent l'hypothèse de Zidane licencié, aucun confrère espagnol ne veut y croire. Zizou a le vestiaire derrière lui, le public aussi. Melchior Ruiz est rédacteur en chef des sports à Madrid de la radio Copé, un média national.
Florentino Pérez ne le virera jamais. Si Zidane pense qu'il n'est pas capable de renverser la situation délicate dans laquelle est le club, il sera le premier à prendre les devants et à partir, comme il a déjà fait avant.
Zidane, effectivement, était parti de lui-même après ses 3 titres européens avec le Real. L'an passé, déjà, il s'était retrouvé dans une situation délicate après la défaite 3-0 contre le PSG en Ligue des Champions. Sans paniquer, la voix posée, il avait finalement emmené son équipe au titre de championne d'Espagne.
Coup d'envoi du match contre le Barça cet après-midi à 16h. On passe à la prescription culturelle. Tous les samedis, on vous propose des idées de sortie qui se terminent avant 21h, promis juré. Et cette semaine, ce n'est que pour les enfants avec mon premier festival, festival de cinéma pour le jeune public, organisé par la mairie de Paris et l'association Enfance au cinéma. Jusqu'au 27 octobre, des films, des débats, des rencontres, des avant-premières. Ça se passe au Forum des Images, au Forum des Halles et dans 12 autres cinémas parisien et le thème, c'est un autre monde pour oublier un peu la grisaille de celui-ci, Jacqueline Pétrose.
Plein d'émotions, de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'amour.
Gaïa a 8 ans et aime le cinéma. Elle fait partie du jury comme Stéphie et Wassa.
Des sentiments, j'ai envie de pleurer.
Je vois des gens voyager, ça m'impressionne.
Et comme avec Salma, des vocations peuvent naître.
Si on veut devenir réalisateur de films, on peut apprendre comment faire le film.
Avec mon premier festival, on apprend à aller au cinéma et à aimer ça. C'est très important pour Bérénice Béjot, la marraine de cette cette année de donner aux enfants le goût du partage d'émotions.
Quand on entend quelqu'un pleurer, quand tout d'un coup tout le monde se tait, ou quand on entend quelqu'un rire, tout ça c'est des choses qu'on ne peut vivre que si on va dans une salle de spectacle. Leur dire c'est super les séries sur 3, 4, 5 saisons, mais tu peux aussi vivre une histoire en une heure et demie. Et c'est formidable.
Le festival fait sortir de chez soi, de son école et s'ouvrir aux autres. Véronique Boursier, déléguée générale du festival.
C'est l'idée de voir aussi d'autres enfances, dans d'autres époques, dans d'autres cultures. Se dire, mais il y a plein d'autres enfants qui vivent différemment. Et ce que je peux voir au cinéma, ça peut m'aider à grandir, m'aider à devenir un adulte tolérant, ouvert. C'est des valeurs qui nous sont importantes.
Projection de films du monde entier, rencontres, ateliers se tiennent avec les règles sanitaires, bien sûr. Et que cette édition ait lieu est un signal extrêmement fort.
Mon premier festival, c'est donc un peu partout à Paris jusqu'au 27 octobre. Et ce, pour 4 euros la séance.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
À quoi s'attendre du côté du ciel pour ce samedi? C'est avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Un bon ensoleillement dans l'ensemble cet après-midi le long des frontières de l'Est ainsi que sur les régions méridionales de l'Aquitaine à la Provence, alors que sur le reste du pays l'ambiance générale est plutôt maussade avec des pluies se renforçant en seconde partie d'après-midi par la Bretagne et les Pays de la Loire accompagnées d'un vent très turbulent jusqu'à 100 km par heure. Ce soir et la nuit prochaine, ce temps perturbé va gagner vers l'intérieur mais avec un vent moins fort. Les températures avant de fléchir demain vont se maintenir cet après-midi entre 17 et 22 degrés du nord au sud. Demain, le soleil va résister à l'est, de Rhône-Alpes à la frontière allemande, mais partout ailleurs, pluie ou averse vont rythmer la journée, avec un risque d'orage près de la Manche et de l'océan, et le vent sera très turbulent sur le massif central, dans l'axe du Rhône, sur les départements de la façade atlantique et de la Manche.